Salut à toutes et à tous, c'est Stone Circus avec vous pour un générique inhabituel et une émission spéciale, voire même deux. Je ne serai pas tout seul pour la présenter puisque avec moi, mon cher ami Christophe. Salut Christophe.
Salut Stéphane et merci pour l'invitation.
Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec moi. On va parler une nouvelle fois de la sortie d'un nouveau bouquin que t'as fait, que t'as réalisé aux éditions, qui sort aux éditions, pardon, Le Mot et le Reste, après le garage rock, après la power pop, après le rock'n'roll. En fait, t'étais intarissable. Le glam rock.
Et il y en aura d'autres.
Et il y en aura d'autres, je l'espère. Le glam rock, audition Le Mot et le Reste, sous-titré Glitter, Teenage Pop et Art Rock, ça vient de sortir en ce début 2024. Moi, j'étais un peu un ignare en la matière. J'ai appris beaucoup de choses sur le glam rock et j'espère que vous allez en apprendre également au travers de cette émission. Ce sera une émission en deux temps. Une première partie, là, en ce moment, sur les, on va dire, les cadors les plus connus.
Ah, les stars. Hein.
Pour poser un peu le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, une autre heure sur les plus obscurs, les oubliés, mais qui avaient aussi leur place sur cette scène.
Exactement.
T'es d'accord avec ça, Christophe?
Ah oui, complètement.
Et si
je suis venu.
Si on commençait avec un standard, justement.
Ah bah oui, là on démarre avec le Monsieur Plus. Alors on pourrait penser que la grande star du glam, lorsqu'on n'y connaît rien, c'est David Bowie.
Complètement.
Hein, qui l'a été pendant 4 ans, mais grâce uniquement à Mick Ronson. Hein, c'est lui qui a amené le son de Bowie. Mais j'ai préféré mettre T-Rex. En fait, T-Rex c'est le groupe de Mark Bolan.
Ouais.
Parce que comme Bowie, c'est un pionnier, c'est celui qui a galéré le plus quasiment avec son compère. Ils se connaissent très bien. Ils sont nés quasiment en même temps, dans la même ville. Donc, mais c'est lui qui a démarré tout ça. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire en détail. Vous l'avez dans le bouquin. Mais donc, c'est une émission à la BBC où il devait repasser ce qui passait souvent quand même dans les studios de BBC pour l'émission Top of the Pops. Et donc, à force de passer, de ressasser tous ces tubes-là, mais il fallait un petit plus. Et le petit plus arrive en ce 10 mars 71 avec des petites paillettes sous les yeux qui vont le faire briller de mille feux. Hein, c'est vraiment le côté glitter avec les caméras, ça une espèce de reflet en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est le petit plus, les gens ne voient que ça, ils connaissent la chanson, en l'occurrence Hot Love, mais ils se disent il y a quelque chose en plus, on a rajouté, c'est très peu de choses, hein, parce que le maquillage dans le rock on le fait depuis Little Richard,
oui,
depuis très longtemps, donc c'est pas nouveau, mais ce côté pré-disco, de paillettes, de glitter, eh ben ça on se disait, ça c'est vachement bien. We'll be right back.
big time. You're so chic, dude, wherever love we babies up the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just me two, got to search for something new.
Sachez que c'est certainement la première fois que vous entendez Roxy Music dans Stone Circus.
Et la dernière fois.
On ne jamais dire jamais.
C'est un bon titre, ça.
Il était très bien, ce titre, et comme quoi, parfois, certaines œillères hein, qu'on ne devrait pas avoir. Tout ça pour dire qu'on parle en numéro 1, il y en aura 2, de ce podcast sur le glam rock édition Le Moelleres. C'est le bouquin que Christophe vient de sortir, Christophe Bro, Monsieur Christophe Bro, sous-titré Glitter Teenage Pop. On va reparler de ça aussi, du sous-titre qui est important, et Art Rock. Deux grands noms pour illustrer ce mouvement. Alors déjà à la base, on a commencé par Gettyton de T-Rex, qui lui avait commencé par un truc un peu plus hippie, un peu plus Tyrannosaurus
oh
Rex.
Oui. Il fait des disques en solo sous son nom, Mark Bolan.
Voilà,
il rejoint John Shilon, qui est un groupe de furieux.
Ouais.
Psyché, après il fait son duo acoustique avec Tyrannosaurus Rex. Hein.
C'est ça.
Et puis on raccourcit le nom parce que c'était un peu dur à prononcer.
C'est chiant à dire.
Et on est passé du folk pur hippie au T-Rex qu'on connaît. Quoi.
Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, ça, tu dis, c'est par lui, en gros, que tout est arrivé. Tout a commencé en 71, c'est ça. Mais une émission de télé.
Ça aurait pu être Bowie.
Voilà.
L'année d'avant, il avait monté Bowie un groupe qui s'appelle Hype, donc qui n'a pas fait de disque. Hein, c'était déjà Mick Ronson et tout. Mais comme ils ont changé de nom entre-temps, Spiders from Mars, et puis qu'ils ont enregistré après, c'est en fait T-Rex qui a dégainé le premier. Donc musicalement, il était là. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'était deux amis, deux copains. Ils venaient de la même chose, c'est-à-dire le mouvement Mods. Ils ont grandi ensemble dans la même ville et puis ils ont un peu un parcours similaire, sauf que Bowie avait eu un tube quand même en 69, Space Oddity, et puis plus rien. Et T-Rex, c'est pareil, il a fallu vraiment attendre des années avant que ça marche.
Hein. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la musique, on est là pour ça. Je trouve que sur le titre de Gettyton, là, qui présente bien le sujet, il y a quand même une base hyper boogie, on a l'impression d'entendre pas Candide, mais presque.
Mais c'est la base, mon cher
Stéphane.
C'est
la base du...
Mais oui, c'est du boogie, le glam. Enfin, en tout cas, cette partie-là, complètement, avec une grosse basse, avec des rythmiques très dansantes. C'est du boogie. Status Quo aurait pu être un groupe de glam.
Complètement.
Ouais, mais complètement. C'est
même Candide.
C'est pas très loin, finalement. Non. C'était vraiment ça. Et puis, c'est vrai que faut bien te dire que lorsque le glam commence à devenir célèbre, c'est un peu, je dirais, l'autoroute pour eux, puisque d'un côté il y a le hard rock, de l'autre côté il y a le rock progressif, aïe. Et puis c'est tout.
Bah oui, il n'y a plus rien là.
Il n'y a plus rien au hit parade, il n'y a plus rien dans la pop, les Beatles se sont morts et presque enterrés, donc il y a un moment de creux. Et donc, ils vont en profiter. La première moitié des 70s, c'est place au glam rock.
Il faut dire que T-Rex, Mark Bolan, partait quand même avec quelque chose de positif. Il était plutôt beau gosse déjà aussi.
Voilà.
Donc, on a l'impression de voir un peu Jim Morrison, un physique plutôt agréable.
Voilà.
Les costumes, le maquillage.
Oui, mais tout ça compte en fait. Hein.
Le look,
le maquillage. Oui, c'est très important. C'est vraiment partie intégrante
du
glam. L'attitude scénique, l'attitude de jouer des personnages aussi. Ça sera le cas pour Bowie, parce que Bowie, c'est surtout Ziggy Stardust à l'époque 72-73. Exactement. Donc, oui, tout ça fait partie de ce côté théâtral. En fait, ils prennent le contre-pied du rock hippie qui se voulait très proche des gens. On est comme on est dans la vie, on monte sur scène, on s'habille comme vous, on est comme ça dans la vie de tous les jours, on est proche. Et le glam, c'est l'inverse, c'est le théâtre. On fait quelque chose de différent, pas forcément loin du public, mais on est sur scène, on est face à vous, mais on ne vous ressemble pas. On a vraiment quelque chose de différent. Donc tout le côté théâtral, Bowie va vraiment le mettre en exergue. Mais Bolan va suivre. Et puis New York Dolls, Roxy Music, voilà. Tous ces groupes-là. Quoi.
Alors justement, ton livre, là, aux éditions Le Mot et le Reste, tu dis derrière que c'est quand même une histoire anglaise avant tout.
Ah oui.
Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis ?
À cette époque, c'était ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'était tout le côté country rock, folk rock, le hippie, le rock hippie. Il y avait le prog qui était très populaire, mais il n'y avait aucun groupe américain. Le jazz rock et puis le hard rock surtout, ça marchait très bien. Et toute la musique noire. La soul,
bien
le
sûr.
Funk, ça c'était très populaire. Le glam, ça n'a jamais pris aux États-Unis à part New York et Los Angeles, donc les grandes villes. Ça n'a jamais pris dans le grand public américain parce que, en fait, ils voyaient tous ces Anglais beaucoup trop délirés, délirants, délurés plutôt, habillés comme des filles, coiffés comme des filles. Ça plaisait pas du tout ça au grand public. D'ailleurs, les seuls qui vont réussir en jouant des personnages avec ce côté très maquillage, ça sera Kiss, mais Kiss fera un mélange de hard rock et de glam.
Dur, ouais, bien sûr.
Mais, et puis surtout, c'était des personnages fictifs de bandes dessinées, etc. Mais Bowie, pour ça qu'il a échoué aux États-Unis, c'est qu'on le prenait, je ne veux pas dire de saloperie à ce micro, mais franchement...
Peux.
On disait une espèce de PD, quoi. C'était vraiment ça.
Ah oui.
On le traitait de ça parce qu'il était habillé avec des robes, parce qu'il il avait les cheveux longs, parce qu'il était maquillé, il avait les cheveux plus longs que sa compagne de l'époque. Et ça, les Américains...
Ils supportaient
ne supportaient pas ça.
Pas ouais,
ça marchait à New York parce que New York est complètement différent. Mais si les New York Dolls ont échoué et qu'ils ont...
C'est le côté puritain des Américains.
Exactement, quoi. Exactement. C'était même censuré à la base.
Alors j'aimerais qu'on revienne quand même, parce que là on parle, on jacte, c'est normal, on est là pour ça, quand même du morceau qu'on vient de passer qui s'appelle Virginia Plain,
oui.
Tu peux en dire deux mots, pourquoi Roxy Music, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans cette mouvance?
Alors, Roxy Music qui démarre leur carrière avec un album, ce qui est quand même assez rare, premier disque à sortir, c'est un album,
single.
Parce que ce single-là a été rajouté après dans la première édition, mais la première édition anglaise, elle sort sans ce single. Bon là c'était clairement visé le hit parade, c'est un morceau assez up-tempo comme ça, et Roxy Music c'est un peu la crédibilité pour les médias, pour le glam, parce que sinon le glam c'était une musique très populaire, et donc Roxy Music va amener ce côté très intello. C'est le groupe des deux Brian, Brian Ferry que vous entendez comme
Brian
chanteur
Eno.
Et Brian Eno qui était là comme clavier, qui rajoutait des tas de petits zigouigoui derrière. Il va se faire virer d'ailleurs au bout de deux albums, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux stars dans le même groupe. Donc pour eux, ce n'est pas vraiment du glam rock, c'est ce qu'on va appeler du art rock. Enfin, art, pas du hard rock, hein. Art comme artiste.
Artiste, oui.
Donc, et parce qu'il y a ce côté beaucoup plus presque rock progressif. Donc, ce côté plus construit.
Intellectuel aussi.
Oui, où on insiste sur les morceaux d'album. On ne vise pas forcément le 45 tours, le single, le tube. Et donc, ça va amener un peu de crédibilité au genre. Il y aura aussi des groupes comme Bebop Deluxe qui sont moins connus et qui vont amener ce côté beaucoup plus sérieux, ou les Sparks aussi qui seront beaucoup très aimés. Mais tous ces groupes-là, américains, en tout cas pour les Sparks, viendront faire carrière en Angleterre. Même eux, ça ne marchera pas du tout. Hein. Ils seront complètement rejetés depuis le début. Hein.
Alors j'aimerais aussi que tu évoques ce qu'on retrouve dans ton livre là. Tu évoques le côté glitter pour les États-Unis. Explique-nous ça. J'ai pas très bien saisi des étoiles plein les yeux, mais
ouais le glitter, c'est un peu le côté très très rock'n'roll en fait du mouvement. Si tu veux, le glam, c'est le mot générique qui englobe tout. Donc on peut mettre là-dedans effectivement trois. C'est pour ça que j'ai fait un sous-titre Glitter, Teenage Pop et Art Rock. Le côté glitter, c'est comme ça qu'on désigne le glam des années 70 aux États-Unis. Si vous dites glam rock, là-bas, on va penser au celui des années 80, c'est-à-dire le hair metal, le glam metal avec Twisted Sister, avec Motley Crue, etc. Pas du tout le glam qu'on connaît en Europe, celui des années 70. Donc eux, ils appellent ça glitter en fait, pas Gary Glitter, glitter. Et New York Dolls, pour eux, c'est un groupe de glitter rock et non pas de glam rock. Hein. Donc il y a cette différence-là. C'est le côté beaucoup plus rock'n'roll, donc on mettrait là-dedans un petit peu tout le monde. Il y a Gary Glitter, il y a T-Rex, il y a tous ces groupes-là. Et puis la phase teenage pop qui est très importante, c'est tout le côté justement teenage, c'est-à-dire ça va de Sweet à Mudd, ça va des Osmonds à Slick, tous ces groupes qui visaient le hit parade, hein, qui étaient destinés aux jeunes. Il faut bien voir que ce mouvement-là était quand même destiné aux ados. Et puis le côté hard rock, c'est le côté plus sérieux. Donc on met là-dedans Bowie, on met là-dedans Roxy Music et puis des tas d'autres groupes comme ça. Et le tout, ça fait du glam rock. Voilà.
Eh bien, on a beaucoup parlé de Glitter. Eh bien, je te propose d'écouter Gary Glitter.
Et on va reparler après.
Absolument. Stone Circus, émission spéciale glam rock. Aujourd'hui, part one, il y en aura deux. La deuxième, ça sera consacré aux obscurités. Plus, là, c'est plus les gros noms de cette mouvance née en Angleterre, qui a duré quoi, 3 ans, 71, 72, 73, 74.
On peut dire 4, 5 ans.
D'accord. Là, on a écouté deux grands noms encore, Gary Glitter et à l'instant Slide. On revient sur un petit peu sur Gary Glitter et son excellent titre Rock and Roll Partout. Ouais.
Ça, c'est un morceau en fait qui est historique parce que la rythmique qui est déjà du pré-disco, qui a été enregistré en studio en accumulant les bandes de cymbales, de tom bass. Et c'est Mike Linder qui était le producteur, qui était son producteur, qui est en fait l'inventeur de ce son-là. Hein. Gary Glitter n'y est pour rien. Et ce qui est fou, c'est que c'est la version instrumentale qui a été quasiment un hit, numéro 2 en Angleterre, alors qu'on n'entend que le mot « yeah » dessus. Et ouais, c'est pour moi la base même du morceau glam. C'est-à-dire qu'une rythmique incroyable, il fallait deux batteries.
Et oui, on sent
il fallait deux batteries en live pour reproduire ce son-là. Et puis, quasiment pas de texte, parce qu'on est là pour danser. Juste de crier « yeah » comme ça, c'est vraiment, vraiment du glam. Et puis bon, bah forcément pour Gary Glitter, tu sais que j'ai hésité, est-ce que je devais en parler. Bon, on connaît la fin ignoble de tout ce qu'il a fait, et depuis 2000 tout s'est arrêté pour lui. Oui. Il est encore en prison aujourd'hui.
Pour ceux qui ne savent pas, il a été accusé plusieurs fois de pédophilie.
Exactement, donc tout s'est arrêté en 99 pour lui. Il n'empêche que ce qu'il a fait avant, je veux pas faire de la cancel culture ici, mais il fallait en parler parce que c'était quand même un bonhomme très important pour le glam. Et puis à l'instant Slade,
sublime,
c'était le groupe le plus populaire dans ce glam rock anglais entre 71 et 75, quasiment que des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3.
Ah mais c'est fou, c'est une machine à hit. Hein.
Les critiques détestaient Slade, ils les trouvaient vulgaires, ça chantait mal, en fait ça chantait très bien, mais ça chantait très fort, très haut, un audio
très aigu,
avec une voix comme ça presque pré-hard rock.
On dirait un peu Bon Scott quoi, des débuts.
Ouais, exactement, et puis musicalement on est vraiment dans du pur glam, et puis alors, il fallait voir les costumes, le look qu'ils avaient.
Enfin des ploucs, mais c'est fou quoi.
C'était un groupe de prolos, mais ils sont devenus immensément célèbres.
Moi je connaissais bien Slade en version Ambrose Slade avant.
Ah, c'était
sublime album aussi de reprise, enfin, bref. J'avoue que j'ai découvert Slade vraiment sous cette forme tardivement, et encore mieux grâce à ton livre, donc merci.
Eh ben, il est là pour ça.
Alors ce qu'il faut souligner sur Slade aussi, c'est, je trouve ça assez fun, c'est l'écriture, comment ils écrivaient leur titre.
Ouais.
Une sorte de quoi de d'argot de
oui,
faire chier.
C'était écrit phonétiquement avec plein de fautes d'orthographe.
Là, c'était Mama We're All.
Oui. Ouais, all crazy now.
Voilà, avec des E partout,
voilà,
des W partout.
Et donc ça faisait hurler les ménagères, mais les gamins étaient contents. un peu moins les mères de famille, parce que bon,
les profs d'anglais,
tu vas être encore mauvais en orthographe. Mais tous leurs morceaux phares étaient mal écrits, mal orthographiés, mais c'était prononcé phonétiquement comme ça. Et puis bah,
hyper drôle.
Et puis voilà, c'était une des marques de fabrique de Slade.
J'adore. On poursuit avec un autre grand aussi, on va peut-être l'annoncer dès maintenant. On l'a entendu en intro, mais là on va entendre la vraie version, Sweet. Alors, il y a eu The Sweet et Sweet.
Voilà. Effectivement, c'est un groupe qui a démarré dans le bubblegum, hein, avec des morceaux dont ils ne jouaient même pas dessus. Hein, ils ne jouaient même pas sur leur disque. On leur écrivait les chansons et puis ils se contentaient de chanter, ils ne jouaient pas. Puis ils sont révoltés. Alors, ils avaient le droit au face B. Et puis, à un moment, ils en ont eu marre. Ils ont envie d'écrire eux-mêmes leur face A, leur single, ce qui est arrivé. Et ils l'ont plutôt bien fait.
Ah, carrément.
Hein, et puis, bah, surtout, c'est eux qui jouent sur leurs morceaux à partir de 72. Parce qu'avant, c'était même pas. Ils avaient des musiciens de studio. Et puis, alors, on va entendre Ballroom Blitz.
Bon, le grand classique.
Qui est le grand classique de Sweet. Mais pour moi, le grand classique du glam rock. Hein. C'est incroyable.
Things you do to me. Oh, my fingers are getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one.
Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving.
Yeah, 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 yeah.
And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a monument. I'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call your love. When you appear, there's nothing left in you. Uh-huh.
Now the man in the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. And she could kill you with a wink of her eye.
Oh, yeah, it was electric. So frantically hectic. And the band started leaving, cause they all stopped breathing.
Yeah, 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 yeah.
And the man at the back said, everyone attack. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna run it. It'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz.
Yeah.
Vous êtes toujours dans Stone Circus, émission spéciale Glam Rock Part 1, il y en aura deux, la prochaine, eh bien, bientôt. Là, on s'intéresse plutôt au grand nom de ce style. C'est en rapport avec le bouquin que Christophe Bro, que j'ai avec moi aujourd'hui, vient de sortir, Glam Rock aux éditions Le Mot Il Reste, Glitter, Teenage Pop et Art Rock. Teenage Pop, je crois qu'on en a eu deux bons extraits. On a commencé avec The Suite, le fameux Ballroom Blitz. Mmh. Et à l'instant, quand j'ai vu ta playlist arriver, mon cher Christophe, je me suis dit, putain, il m'a collé les Osmondes. On va faire des chants religieux ou quoi?
Non. Effectivement, alors, on est passé aux États-Unis avec les Osmondes.
Je plaisante. Hein.
Parce que les trois quarts, c'est des trucs anglais. Donc là, on a une scène américaine. Les Osmondes, c'est un cas incroyable parce que c'est une famille de Mormons qui a démarré vraiment avec des chants très puritains, très religieux. Des chants mormons en fait, hein. Et puis ils se sont révoltés au début des années 70, ils ont eu envie de faire autre chose, qu'ils ont grandi déjà, et puis ils sont passés progressivement à la pop, et puis à cet album là qui s'appelle comme le tube qu'on vient d'entendre, Crazy Horses.
C'est incroyable.
Et ce morceau est génial, et surtout l'album est vraiment très 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 bien. Alors il faut quand même dire que en faisant mes recherches sur ce morceau, moi j'ai longtemps cru que c'était la voix d'un des Osmondes qui faisait l'intro, si célèbre. En fait, pas du tout. Ils ont utilisé un petit orgue Yamaha, le YC-30 exactement. Et sur cet orgue, il y a une espèce de rail modulaire tactile qu'on appelle un portamento. Et donc, c'est ça, en poussant le curseur comme ça, qui fait ce son qui ressemble à un hennissement de cheval. Parce
complètement.
Que le morceau s'appelle Crazy Horses, donc il fallait vraiment imiter ce son-là. Et donc, c'est grâce à ce petit gimmick qu'ils ont obtenu l'intro et le morceau qui fait mouche. Et le titre est génial.
Allez écouter l'album, parce que moi, j'y croyais pas. En feuilletant le livre, il y a combien de sélections de disques, d'ailleurs, Christophe, sur ton, à peu près?
Il y a 100 albums.
100 albums.
Ouais. Et 20 compilations.
Je suis allé, du coup, écouter, car je fais... J'ai préparé cette émission.
C'est très bien.
Sans préjuger, je suis allé écouter les Osmondes, je suis tombé par terre. Franchement, l'album est terrible, quoi.
Ouais, l'album est vraiment excellent.
Tu peux donner le nom de l'album? C'est Crazy Horses.
Crazy Horses.
Oh, Crazy Horses.
Ouais, comme le single.
Parfait. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on parle. Est-ce qu'il y avait des nanas?
Très peu. Très très peu.
Bon, terminé, au revoir, merci.
Le rock est un milieu macho. Je vais pas vous faire une découverte, mais le glam ne fait pas exception. La seule vraiment qui a marqué son époque dans le glam, c'est Suzy Quatro, qui est américaine, qui a démarré comme un petit peu Gary Glitter, comme T-Rex, comme Bowie, sa carrière au milieu des années 60 avec ses frangines. Elle a vraiment galéré, et en fait, il a fallu un producteur anglais, Mike Chapman, hein, qui va l'emmener en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'elle va marcher, Suzy Quatro, donc en solo. C'est une des rares femmes donc connues du glam rock. Elle est américaine, mais elle sera quasiment inconnue aux États-Unis. Il faudra attendre les années 80 pour qu'elle se fasse un nom.
Et je crois aussi qu'elle a été extrêmement adulée du côté de Japon. Du Japon.
Ah ouais. Les Japonais sont très, très, très fans du glam, fans des Osmondes, on vient d'en parler, fans de Suzy Quatro, mais d'autres groupes, Sweet également,
ouais.
Slate.
Hein, ouais.
Tous ces groupes-là marchaient très très bien au Japon. Le Japon est quand même le deuxième marché au monde après les États-Unis donc à cette époque. Donc ils étaient vraiment très très bons au public et ils achetaient beaucoup de disques. Et ils avaient surtout beaucoup de disques, on le sait bien, les pressages japonais sont très bons, ils ont toujours des petits bonus tracks comme on dit. Donc tout ça pour revenir à Suzy Quatro qui démarre sa carrière en Angleterre, qui va avoir quand même pas mal de hits entre 73, 74, 75. Et elle a une voix qui est assez haute, assez aiguë, donc une voix comme ça qui va beaucoup inspirer les Runaways.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Beaucoup inspirer John Jett pour un petit peu plus tard. Et c'est vrai que c'est la seule femme de renom. J'aurais bien voulu en mettre d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y a la chanteuse de Fancy, la chanteuse de Bonnie Sinclair, etc.
Oui.
Mais
oui.
Elles sont beaucoup moins connues. C'est un petit peu la seconde division, en fait, du glam. Non, mais c'est pas péjoratif, mais c'est la réalité. Donc, je suis là pour raconter l'histoire et pas pour l'inventer. Donc, la seule femme, vraiment, on va l'écouter, Suzy Quatro.
Bien sûr, on va l'écouter avec le titre 48 Crash.
Exactement.
call you a lover boy. Try it, pick it up, take them lights away. Try it, pick it up.
Eh bien oui, on ne pouvait pas faire une émission sur le glam rock et sur les grands noms de ce style sans passer les New York Dolls. Hein.
Qui sont en couve.
Qui sont en couve, mais ouais, il y a quatre albums comme d'habitude, hein, on reprend le même schéma. Roxy Music, les New York Dolls, David Bowie et les Sparks.
Exactement.
Là, tu ratisses, voilà, pas large,
deux,
mais...
Deux Anglais, deux Américains.
Voilà. Glam rock aux éditions Le Mot et le Reste, sous-titré Glitter, Teenage Pop et Art Rock, ça vaut 22 balles, ça les vaut largement. Je disais hors antenne à Christophe que c'est certainement le bouquin, ton bouquin, où j'ai appris le plus de choses. Et je partais avec quasiment zéro, hein, en connaissance. Je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est glam rock, ah bah ouais, bah c'est vachement bien, ah bah tiens, ça je connais pas, je vais aller écouter, ah bah ça non plus, auquel compile et tout. Bref, c'est vraiment un bonheur à lire, surtout l'introduction est sublime, et puis, comme d'habitude, la sélection d'albums, au cordeau, parfaite.
Ah merci.
Bah non, c'est sincère.
Ça sert à ça.
Ça c'est sincère vraiment, et comme on le disait aussi également, c'est un des rares bouquins en français en tout cas sur le sujet.
Il y en a eu deux avant moi, un qui est sorti qui était très bien de Olivier Pollard, que je salue s'il m'écoute, qui est sorti il y a 12-13 ans quand même.
Ouais.
Et puis un autre plus récent,
sorti anecdotique.
Il y a 2 ans. Plus anecdotique.
T'es gentil. Hein. Bon, allez, on revient à nos moutons. On a écouté Suzy Quatro qu'on a annoncé. Et puis, à l'instant, les New York Dolls. Grand nom américain quand même.
Oui, mais complètement inconnu à l'époque. Aux États-Unis, ça n'a marché qu'à New York et dans quelques quartiers. Bah, ils étaient, tu vois leur look, tu vois leur dégaine.
Oui.
Ça pouvait pas plaire au grand public.
Trop tôt.
Oh. Hein, oui, too much too soon, comme dit le titre du deuxième LP. Non, c'était trop décalé. Tu sais, ils se sont fait traiter de tous les noms, les pauvres New York Dolls. C'est devenu un groupe culte en Europe, mais ils ont dû vite même pas s'expatrier parce que leur carrière a été très courte. Hein, ça n'a duré que quelques années.
Ils avaient tout quand même. Hein,
ils
tout
avaient
compris,
tout compris. C'était ce qu'on appelle pas élégamment, mais du proto-punk.
Ouais. Voilà, j'aime pas ce terme.
Punk avant l'heure, ouais. Parce que l'attitude, les chansons, ils avaient tout compris, sauf que voilà, ils sont arrivés trop tôt. C'était trop extrême pour le public américain. Ils voulaient un groupe comme Kiss. Là, ça marchait bien. Ou Alice Cooper,
ouais,
également,
hein,
qu'on a oublié. Mais pas les New York Dolls, donc...
voilà. Raté.
Ben oui.
Donc, ils reviendront avec les Heartbreakers plus tard.
Oui. Oui. Johnny Saunders, ça sera un peu plus vendeur avec les Heartbreakers, mais on reste quand même dans des basses eaux. Hein.
Tout à fait.
C'est pas des grosses ventes. Hein.
Merci Christophe, car l'émission première partie est quasiment terminée. D'ici peu de temps, vous écouterez la deuxième. J'espère que cette émission vous a bien plu pour présenter le glam rock avec toi Christophe, et surtout pour parler de ton livre qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste. On se retrouve bientôt pour la partie numéro 2 avec des noms un peu plus obscurs. Hein.
Voilà.
T'as choisi de rentrer un peu dans... je faire les fonds de tiroir, non ?
Non, pas du tout, mais c'est une histoire de 45 tours, le glam rock. Il y a des albums... Certes, hein, c'est un peu le cœur de l'ouvrage, mais c'est surtout des chansons des 45 tours. Hein. La plupart des meilleures chansons sont sorties en single.
On va se terminer cette émission avec Mudd, Christophe.
Ah, Mudd, oui. Alors, encore un groupe qui a galéré. Encore un groupe teenage pop avec un look pas possible. Et puis, des chansons entre rock'n'roll, rockabilly, parce qu'il y avait un gros revival à cette époque-là.
Ah, ils adoraient les 50s. Hein.
Ils adoraient les 50s et le rock'n'roll. Donc, Tiger Feet, qui a été un gros tube en Angleterre en 73, il me semble bien.
Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve pour une émission numéro 2. T'es d'accord?
Ah oui,
tu, avec plaisir. Tu mettras du rouge à lèvres et des paillettes, j'espère.
Même si ça se voit pas trop à la radio, oui.
Touch, 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 touch